Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André Mbouji au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être des nôtres dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Lors de sa dernière tournée en Afrique, le président des États-Unis, Barack Obama, a plaidé pour la sécurité durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a appelé les pays voisins à cesser de soutenir les groupes armés en RDC. Il a aussi estimé que l'accord cadre signé en février par le pays de la région ne pouvait pas être une simple feuille de papier et que la réforme de l'armée est plus qu'une nécessité. Comment commentez-vous ces plaidoyers du président américain? 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou, Pierre Elamegi et Jean-Claude Sala réalisent cette émission et Jirlungembo vous la présente sous la supervision de Nicole Gaga. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer. 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Professeur Dominique Welt, vous êtes analyste politique, vous êtes avec nous dans le studio, bonjour.
Oui, bonjour, voilà, et bonjour à tous vos auditeurs.
C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir pour la deuxième fois dans ce studio. Merci d'avoir fait les déplacements. Alors, plaider pour la sécurité durable dans l'Est, appeler les pays voisins à cesser de soutenir les groupes armés, estimer aussi que l'accord cadre ne pouvait pas être une simple feuille de papier et que la réforme de l'armée est plus qu'une nécessité. D'aucuns taxent ces propos de Barack Obama, de trop diplomatique.
Ben écoutez, oui, je pense qu'on peut en effet avoir une double lecture de son déplacement sur le continent africain, le deuxième déplacement depuis son deuxième mandat. Et donc, en effet, on peut soit penser qu'il a fait un tour, qu'il a enfoncé des portes ouvertes en rappelant ce que tout le monde sait très très bien, à savoir que l'accord cadre de Nairobi doit évidemment être mis en œuvre, que la force d'interposition rapide sous l'égide de la MONUSCO doit enfin commencer à se déployer dans les zones où, encore à l'heure où nous parlons, il y a des milliers de populations qui sont soit déplacées, soit toujours victimes des exactions de ces groupes armés qui sévissent toujours à l'est de la République démocratique du Congo, qu'il faut évidemment que les pays voisins de la RDC arrêtent de soutenir ces groupes armés. Or, on sait maintenant quand même, avec les nombreux rapports qui ont été rédigés et qui ont été approuvés, surtout venant des Nations Unies par le Conseil de sécurité, qu'il y a évidemment un soutien maintenant manifeste, soit de l'Ouganda, soit du Rwanda, à des groupes armés qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, on peut dire évidemment que c'est enfoncer des portes ouvertes, comme je l'ai dit, et que finalement le discours était relativement frileux et en tout cas pas assez fort. Maintenant, si on regarde un peu quand même les trois pays qu'il a choisis pour son deuxième voyage sur le continent africain, on peut se rendre compte qu'il a fait vraiment le tour de la République démocratique du Congo, puisqu'il est parti du Sénégal, enfin il est arrivé au Sénégal, ensuite il est descendu sur l'Afrique du Sud, et il est remonté sur la Tanzanie. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi a-t-il fait le tour du pays qui est vraiment celui qui aujourd'hui doit pouvoir attirer l'attention de grands responsables comme le président Obama de la communauté internationale, et finalement ne pas y venir et ne pas venir soit à l'Est, soit comme l'avait fait M. Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale, soit à Kinshasa. Maintenant, je pense que le tour qu'il a fait est quand même stratégique et veut montrer, en tout cas, en choisissant la Tanzanie plutôt que le Rwanda, et on sait bien quels ont été les propos il y a deux mois du président Kikwete par rapport au Rwanda, qui a vraiment fâché le président Kagame, si je peux m'exprimer ainsi, tout rouge. Eh bien, je pense qu'il y avait quand même là un message très très clair qui est envoyé à l'Ouganda et au Rwanda, puisque finalement M. Kikwete parlait autant de M. Museveni que de M. Kagame, en disant maintenant, nous on en a ras-le-bol, s'il vous plaît, réglez vos problèmes avec vos groupes d'opposition armée qui sévissent sur le territoire de la République démocratique du Congo, réglez ces problèmes-là, et alors comme ça au moins la région sera en paix, c'est en tout cas une des pistes de solution. Et je pense que la visite de M. Obama chez son collègue Kikwete était quand même à ce niveau-là un message assez clair dirigé vers les deux protagonistes de ceux qui, voisins de la RDC, soutiennent ces fameux groupes armés qui sévissent à l'est de la République.
Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avant d'accorder la parole aux auditeurs, on peut s'attendre à quelque chose de cette tournée aujourd'hui? Parce que finalement, il y a beaucoup de sceptiques et il y a aussi beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhensions par rapport à cette visite, et surtout quand vous venez de brosser là le passage, donc il a fait le tour de la RDC sans pour autant arriver sur place et parler avec son homologue, le président Kabila, pour au fait avoir un cœur net et au fait sur le problème et les préoccupations des Congolais. Et là déjà ça peut mettre quelques Congolais en réserve et aussi à avoir beaucoup d'inquiétudes.
Vous avez raison, parce que je pense que pour ne pas être naïf, et d'ailleurs le président Obama l'a dit assez clairement, que ce soit à Dakar, que ce soit en Afrique du Sud ou en Tanzanie, il est évident que un des objectifs de sa mission, de son deuxième voyage sur le continent africain, était évidemment de renforcer les liens économiques et commerciaux entre le continent subsaharien, le continent africain subsaharien et les États-Unis. Et il a bien reconnu que les États-Unis avaient failli par rapport à un autre grand partenaire commercial que nous connaissons très bien ici en RDC, qui est la Chine. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis ont un retard considérable sur la Chine par rapport aux relations commerciales entre ce continent africain et cette partie du continent africain qui est l'Afrique subsaharienne et les États-Unis, et que son premier objectif était, à mon avis, celui-là, et c'est pas innocent, s'il a pris évidemment là aussi le Sénégal, l'Afrique du Sud, dont on sait que c'est un pôle de développement pour l'Afrique subsaharienne, très important, et la Tanzanie, qui est un pays aussi très très important en termes économiques, puisque c'est l'accès notamment vers la mer Rouge et l'océan Indien. Et donc, je pense que le premier objectif était celui-là. Alors que derrière, il y ait eu, évidemment, peut-être poussé un peu par les événements, et je crois qu'il faut saluer quand même la fameuse question que le journaliste congolais de la RTNC a réussi à poser au président Obama. Moi, je l'ai rencontré il y a 2-3 jours, Salé, et il m'a expliqué un petit peu comment ça s'est fait. Il y avait 250 journalistes et 3 journalistes qui ont eu l'autorisation de poser une question aux deux présidents qui faisaient une conférence de presse conjointe. Il a été choisi, il a été sélectionné dans les 3 qui ont pu poser une question. Et on a bien vu que là, la réponse du président Obama, d'abord, il semblait vraiment bien connaître son sujet. Il a répondu sans aucune note, de manière tout à fait fluente et vraiment sans hésitation. Je pense que ça veut dire que, et avec son collègue Kikwete et avec son collègue Zuma, ils ont parlé de la question et de la situation ici en République démocratique du Congo, et qu'il avait l'air de très bien savoir quels étaient les problèmes et ce qu'il fallait faire. Alors maintenant, qu'attendre des États-Unis pour le développement de la paix en République démocratique du Congo? Ben en effet, pour le moment, il n'y a pas de grands signes tangibles qui démontrent que les États-Unis ont vraiment une volonté de vouloir faire cesser ces exactions et ces groupes armés qui actuellement sévissent dans l'est de la République. On n'a pas parlé de... Alors, il a dit évidemment au président Kabila, vous devez réformer votre armée, réformer vos services de sécurité. Tout le monde dit la même chose, mais où est le premier dollar pour accompagner la RDC dans sa réforme?
En traitant cette tournée-là, coûte énormément.
La tournée, évidemment, du président Obama, surtout évidemment au niveau de la sécurisation de ses déplacements et de ses hébergements, a coûté, d'après les chiffres du département d'État, donc ce n'est même pas secret, 100 millions de dollars. Donc voilà. On voit bien que pour une semaine, c'est quand même beaucoup d'argent dépensé, même si c'est évidemment un des présidents les plus influents de la planète.
La réforme de l'armée, voilà, merci beaucoup Dominique Werth. On va prendre la première série des auditeurs avec Gaston qui est à Kinshasa, Mitterrand à Kikwit et Maurice à Kinshasa également. 081 890 6315.
parole aux auditeurs.
Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, à vous aussi.
Voilà, Gaston, vous avez suivi notre invité qui, au fait, a planté les décors par rapport à ce sujet. Vous avez la parole.
Oui, en tant qu'une personnalité internationale, M. Obama, le président des États-Unis, n'a fait que repris le vœu de tout le monde et a révélé aussi la vérité. Donc je veux dire que la guerre doit cesser et chaque État doit demeurer en paix. Mais en tant qu'État, il n'a pas dit la part de l'implication et la responsabilité de son pays, mais aussi des autres dans cette situation. Ça, c'est ce que je n'ai pas entendu. Mais aussi, est-ce que c'est de cette manière ici qu'il faut résoudre ces monstrueux conflits, disons, dans la région? Ça, c'est ce que je vais en soi savoir, monsieur.
Merci beaucoup, Gaston. C'est vrai, vous cherchez donc à avoir quelques précisions par rapport à ce que a révélé concrètement Barack Obama. Et en tant qu'État, qu'est-ce qu'il dit concrètement comme responsabilité des États-Unis hein, dans cette situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo? Mitterrand, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité.
Voilà, bonjour, Mitterrand. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Le discours du président des Américains était compréhensible et clair. Certains Congolais pensent que M. Obama devrait citer nommément, n'est-ce pas, les pays qui sponsorisent les troupes négatives qui déstabilisent la RDC. Alors que c'est un secret de positionnel, c'est le compte de tous. Autrement dit, M. Obama, je me demande, est-ce qu'il était dans l'obligation? Est-ce qu'il était persuadé de dire tout ce qu'il avait dit? Bon, s'il en avait dit, c'est un signe fort qui indique la solidarité pour nous qui sommes peuple congolais. Mais qu'est-ce qui doit réellement intéresser les Congolais? Qu'est-ce qui doit interpeller les Congolais finalement? C'est lorsque M. Obama dit ceci, que M. Kabila doit renforcer les capacités formatives de l'armée congolaise. Ça veut certainement dire que tous les pays qui vivent sur cette planète reconnaissent qu'au Congo, il n'y a pas une armée. Monsieur le journaliste, vous savez personnellement qu'il y a un célèbre politicien qui disait, qui s'appelle Hans, il disait, la finalité ou le but ultime de toute politique, c'est la défense pour garantir l'intégrité nationale. C'est surtout dans ce sens que l'armée est une base qui permet à chaque État d'affirmer sa puissance par rapport aux autres États et de lancer une offensive à un État adverse. Même si on est dans un pays où on assiste aux lieutenants, aux officiers gradés qui ne peuvent même pas courir à une distance d'un kilomètre, monsieur le journaliste. Nous regrettons. Voilà, je vous remercie tout à mon intervention, c'est Mitterrand, à faciliter.
Merci beaucoup, Mitterrand. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, J.R.
Votre point de vue.
Ok, merci, J.R., pour la parole. Moi, je veux dire ceci, que les Congolais doivent arrêter de rêver. Je pense qu'il y a quelques mois passés, il y a l'ambassadeur de Russie qui disait que les Congolais, je pense que si les Congolais doivent attendre des solutions de la communauté internationale, ils attendront longtemps. Je pense que vraiment ces Congolais rêvent. Qu'est-ce que Obama pouvait quand même dire de concret? Obama n'a fait qu'exprimer ou confirmer l'hypocrisie de la communauté internationale. Hein? Qu'est-ce qu'on connaît, par exemple, les problèmes là, de l'Est là? Il y a deux rapports du panel là, des experts des Nations Unies qui établissent l'implication du Rwanda, de l'Ouganda, dans les conflits de l'Est. Ils démontrent même comment le M23 a été monté. Ils démontrent comment la prise de Goma a été planifiée. Alors maintenant, il y a un troisième rapport qui est sous le tiroir, qui stipule que l'Ouganda ne soutient plus le M23 et le soutien de l'autre, de Kagame, est très limité. Donc c'est pour dire qu'on est en train de dédouaner, de blanchir ces deux présidents qui ont soutenu de manière injuste pour tuer nos frères, pour massacrer, violer nos soeurs. C'est pas normal, c'est pas normal. Je pense que nous, Congolais, nous sommes en train de rêver. Nous sommes en train de rêver, comme disait un auditeur. ministère hier là.
Maurice, je crois que nous avons tous suivi l'actualité. Hein. Barack Obama, lorsqu'il est arrivé en Tanzanie, il a même bien dit que les Congolais ont besoin d'une chance.
Ils ont besoin quoi de...
D'une chance. Il faut accorder quand même une nouvelle chance aux Congolais.
Je pense que il y a Tony Blair même, il y a Tony Blair qui disait la fois passée, à qui on a posé même la même question sur le conflit de l'Est. Je crois qu'il a dit que laisser les Congolais mourir comme des mouches parce qu'ils le veulent. Je pense que c'est un problème de leadership. C'est un problème ici de cette malchance que j'appelle toujours, ou malédiction, d'avoir hérité un régime le plus faible, un régime le plus incompétent de tous les régimes qui se sont succédés au pays. Hein? On établit que c'est l'Ouganda qui soutient le M23. Mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ces gens-là font là-bas quand pas la pousse pour parler? Vous ne comprenez pas qu'il y a vraiment...
Oui,
la complicité de nos autorités.
Oui, je crois que notre invité pourrait nous compléter, Maurice. Je crois que nous n'allons pas à chaque fois revenir sur les trois options qui ont été proposées par le chef de l'État à l'époque. Il y a la solution militaire, il y a la solution diplomatique et également la solution politique. Je crois que nous avons au moins trois fronts sur lesquels nous nous basons pour arriver à trouver une solution durable. Et c'est vrai, parler aujourd'hui des présidents des États-Unis ou encore d'autres médiations qui peuvent exister par rapport à la situation dans la sous-région, c'est mettre aussi dans les comptes de la diplomatie. C'est normal. Mais d'un côté, il y a aussi la démarche politique. Hein, dernièrement, vous avez suivi, nous avons fait l'émission hier sur les concertations nationales, réclamées par la classe politique, les différentes classes politiques. Alors aujourd'hui, on y est. Je crois que petit à petit, on peut tendre vers une solution.
En fait, hier, je voudrais dire ceci. L'initiative du dialogue, moi je pense qu'il demeure maintenant, elle demeure cette initiative, vraiment la mieux qu'on pourra expérimenter. Hein? Parce qu'on a expérimenté sur le plan militaire, c'est vraiment un secret des polichinelles qu'on a vraiment enregistré que des défaites. Hein? Alors, sur le plan diplomatique, c'est la honte qu'on nous fait là à Kampala. Hein? Pendant que j'étais en train de le dire, qu'on démontre que ces gens-là sont en train de soutenir, en même temps, ils jouent aux pompiers. Ils accusent le fait.
Voilà, donc si je comprends bien, Maurice, la tournée, pour vous, la tournée de Barack Obama ne peut rien donner comme résultat à ces problèmes des Congolais.
Oui, alors, ce que j'ai dit, ceci. Par rapport au dialogue, moi je pense qu'on doit...
Restons dans la tournée de président des États-Unis, parce que c'est de ça que nous parlons aujourd'hui.
Il stipule qu'on doit faire la réconciliation nationale. Cette réconciliation nationale commence par les grands problèmes de l'heure qui consistent d'abord à trouver des solutions à ces problèmes-là de l'Est. C'est-à-dire que tout le monde doit prendre part, et le M23, donc, doivent prendre pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui n'a pas marché.
Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé. Voilà, il en vaut aussi pour ceux qui attendent, hein, pour passer par cette émission. Donc, nous parlons de la tournée, la toute dernière tournée africaine, dans le deuxième déplacement du président des États-Unis en Afrique, hein, qui, en fait, en toile de fond, il y a eu également la situation de la RDC qui a été évoquée dans ses discours. Alors, nous en parlons pour voir quel est l'impact de ces discours, l'impact de ces propos dans cette situation que traverse l'Est de la RDC. Christophe, vous êtes à Goma. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Christophe Sambika.
Oui,
je suis à Goma.
Oui, Christophe Sambika, vous êtes à Goma. Votre point de vue.
Bon, je viens de suivre mes deux amis, les prédécesseurs, qui viennent de parler quelque chose. Ils ne sont pas optimistes. Hein. Ils disent, bon, rien ne va changer. Moi, je suis diplomate de formation. Et je viens de Kindu il n'y a pas très longtemps. Mais là, je suis à Goma, à quelques mètres près du Rwanda. Et pendant le temps que je suis arrivé ici, monsieur le journaliste, je commence à découvrir certaines réalités que je ne comprenais pas quand j'étais à distance. Bon, monsieur le président des États-Unis a fait une déclaration. Déclaration qui nécessite l'apport de lunettes. Il faut porter les lunettes pour bien les analyser. D'abord, nous disons que c'est une déclaration diplomatique. En relations internationales, on dit qu'il n'y a pas de relations sans intérêt. Les relations entre États sont fonction des intérêts.
Des intérêts.
Aujourd'hui, Obama, oui. Aujourd'hui, le président des États-Unis tient une déclaration presque qui est en faveur de la RDC. Mais ce n'est pas une première, M. Yousali. Depuis que les grandes puissances, dont notamment les États-Unis, ne cessent de nous tenir des déclarations qui promettent des mots de merveille. Ce n'est pas une première. Je crois que vous êtes au Congo. Quand les ambassadeurs de la France arrivent, le président de la France arrive, et les États-Unis arrivent, ils ne promettent que des mots de merveille. Mais on n'ignore pas que ceux qui sont en train de soutenir aujourd'hui, que ce soit le M23, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, et tous les autres qui sont en train de nous faire la guerre, mais ce sont les Américains. C'est eux qui leur donnent des armes, c'est eux qui leur donnent tout. Mais aujourd'hui, ils nous disent qu'ils vont résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Ne soyons pas naïfs.
Voilà, Christophe.
Christophe,
s'il vous plaît. Vous allez poursuivre vos propos. Juste une minute, si vous pouvez m'accorder. Vous êtes sans ignorer que la RDC a signé quand même les traités interdisant la commercialisation et la vente des armes, n'est-ce pas, aux groupes armés. Vous êtes informé.
Mais écoutez. Oui,
alors, le traité a été signé aux États-Unis. Voilà, donc c'est comme pour dire que quelque part, c'est vrai, nous ratifions, nous signons, mais ben, il revient aussi à la RDC de prendre ses responsabilités, au fait, d'appliquer ces instruments juridiques auxquels nous adhérons.
Moi, je suis en train de me dire ceci. Si aujourd'hui les Américains ne trouvent plus leurs intérêts pour le soutien du Rwanda et des autres, ils veulent tourner directement, coopérer avec la RDC directement, moi je me dis gloire à Dieu. Mais s'ils ne trouvent pas aucun intérêt à collaborer avec nous directement, puisque si vous vous souvenez bien avec Mouzé ne voulait pas qu'il y ait partage du 50-50. Si Kabila aujourd'hui accepte que les Américains, comme toujours, prennent la part des lions, 80% ou 90% pour nous laisser 10%, et comme ça il va cesser la guerre. Je crois que lorsque la guerre termine, les pleurs vont continuer à pleurer. Bref, je demande au président et son gouvernement de ne pas se fier à ces déclarations-là. Mais de ne pas beaucoup plus se fier à l'optique diplomatique. La diplomatie, c'est l'argument de faible dicton. Nous devons organiser l'armée, nous devons nous organiser au niveau interne pour que lorsque même les Américains, vous n'avez jamais entendu que les Américains soutiennent une armée extérieure à un pays et ils arrivent à faillir. Si nous nous organisons ici dans notre pays, nous mettons du sérieux dans le travail, je crois que le théâtre que les Américains et les Rwandais sont en train de faire prendra fait. Mais si nous nous fions au rêve, au monde de merveille que les Américains, les autres, les grandes puissances, qui trouvent des intérêts, et si eux qui créent la guerre, la MONUSCO ne disparaîtra jamais en RDC, mon frère. Donc, ils comprennent qu'il y a un œil pour porter avec les Américains, mais un autre œil ici pour organiser son pays, organiser son armée, pour que nous ne soyons plus vraiment. Je suis ici, mon frère, les Rwandais nous prennent pour des petits peuples. Les mots me manquent,
Voilà, si tu peux conclure, Christophe.
Journaliste, vous devez savoir que on est en train de faire le théâtre dans notre pays. Merci.
Merci beaucoup à Christophe d'avoir appelé. Lambert, vous êtes à Kinshasa et Crispin à Kisangani. Lambert, bonjour.
Oui, bonjour, Julien.
Vous avez la parole.
Oui, je salue tous les auditeurs de la radio Okapi. Je salue aussi la déclaration du président des États-Unis parce que c'est une façon de consoler plus d'un Congolais que les États-Unis essaient au moins quand même de songer pour la RDC. Mais laissez-moi un peu analyser cette déclaration sur ces trois points. D'après moi, je pense que le président des États-Unis voulait juste interpeller son homologue congolais à prendre au sérieux la gestion de son pays, surtout sur le plan sécuritaire. Ça, c'est de un. De deux, je pense aussi qu'il voulait aussi signifier à nos pays voisins que tout ce que vous faites pour la RDC, et nous sommes informés de tout, sauf rien, et à un moment donné, ça va prendre effet. Mais il se pose un problème, Dieu. Il se pose un problème, comme le président vient de le dire, il se pose un problème d'intérêt. C'est ça. Pour que nous puissions mettre fin à la crise qui sévit la RDC, notre gouvernement doit d'abord traiter ce sujet. C'est une question d'intérêt. puisque la communauté internationale, les États-Unis sont prêts pour nous assister, mais il se pose un problème. Comment ou combien qu'ils vont bénéficier à nos aidants? Puisque vous ne pouvez pas peut-être ignorer que les États-Unis, la communauté internationale, bénéficient derrière le Rwanda et l'Ouganda, les pays qui sont en train d'agresser la RDC. Maintenant, ça pose un problème. C'est injuste. Et une option ou une opportunité pour le président des États-Unis de dire à son homologue congolais que non, nous sommes prêts à vous aider, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Proposez-nous, puisque nous sommes prêts à vous aider en organisant l'armée et puis en disant directement à vos pays voisins de cesser et de soutenir vos rebelles, et cela va prendre fait. Donc, puisque la question que moi je me pose aujourd'hui, pourquoi les États-Unis, la communauté internationale, trouvent la paix, par exemple, à la République centrafricaine, ils imposent aussi la paix au Mali, mais à la RDC, ce n'est que des promesses. Ça, c'est un problème sérieux. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Notre président ne peut pas se laisser faire par de telles déclarations. Il doit encourager beaucoup plus l'option militaire, renforcer notre armée, puisque la paix a quand même un prix. Il doit savoir que la paix a un prix, il doit préparer tout pour que notre armée soit solide et prouver à nos pays voisins que nous sommes capables, nous sommes un État.
Merci beaucoup Lambert. Nous savons que la réforme de l'armée, c'est tout un processus, hein, les temps que ça peut prendre. Mais maintenant qu'il faut parer au plus pressé, il y a aussi d'autres options, notamment l'option politique et diplomatique, qui pourraient aussi faire l'affaire afin de permettre cette sécurité durable dans l'est du pays. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, Dominique Vert. J'ai parlé de Christophe qui m'a emballé d'ailleurs, avec ses réflexions, qui nous a donné d'ailleurs les trois points. Hein, Christophe qui parlait de la diplomatie, qui est un argument des faibles. Voilà, alors comment regardez-vous les préoccupations des uns et des autres, Dominique?
Écoutez, moi je pense qu'il y a deux, trois choses qui sont tout à fait justes dans ce qu'ont dit vos auditeurs. La première chose, c'est évidemment l'hypocrisie, sans doute, du président Obama a évidemment taire et éviter de parler, bien entendu, de sa responsabilité ou en tout cas de l'implication des États-Unis dans ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut savoir quand même que les États-Unis soutiennent à hauteur de 5 milliards de dollars les forces de défense rwandaises. Et que, en plus, si vous voulez, il y a eu un dernier contingent d'officiers rwandais qui ont été formés aux États-Unis, et de tous les contingents étrangers qui sont formés dans les grandes académies militaires aux États-Unis, les Rwandais paraissent toujours comme étant les meilleurs,
les bons élèves.
Et donc, il est évident qu'il y a un lobbying de la part des forces armées de l'armée américaine pour dire, regardez, ça ce sont vraiment des soldats, des militaires qu'il faut continuer de soutenir parce qu'ils sont exemplaires. Alors après, il y a le discours évidemment civil du président Obama qui est alors un peu plus en effet sur la diplomatie. Pour revenir sur la diplomatie, moi je ne pense pas que c'est l'arme des faibles. Et je pense au contraire que, notamment au travers des différents rendez-vous qui ont eu lieu avec les chefs d'État de la région, et puis qui ont abouti à l'accord cadre de Nairobi en début d'année 2013, moi je pense que le président Kabila a vraiment réussi, me semble-t-il, à éviter une véritable confrontation, parce que c'était ça que cherchaient en fait les forces de défense rwandaises, c'était revenir à une véritable confrontation entre les militaires rwandais et les militaires congolais, en démontrant qu'ils allaient être les plus forts et qu'ils allaient écraser les forces armées de la République démocratique du Congo. Je pense que ça a été assez intelligent de la part de Kabila de ne pas rentrer dans ce piège-là et d'essayer de maintenir toujours le dialogue, toujours la diplomatie, toujours l'approche politique, même si l'approche militaire, évidemment, est aussi une option qu'il faut lever et qu'il faut renforcer, certainement à l'est de la RDC. Mais vous savez, le problème aussi d'un président, même s'il est issu lui-même de l'armée, d'un président comme le président Kabila, avoir une armée trop forte, véritablement aguerrie, véritablement compétente et véritablement efficace, ça peut être aussi évidemment une force qui se retourne contre vous. Et je pense que ici au Congo, il y a quand même ce spectre des coups d'État militaires qui se sont succédés. On voit quand même aussi qu'en Égypte, on a un président qui s'est fait démettre en même pas 48 heures, sans aucune réaction en plus de la communauté internationale. Et je pense bien que si demain le président Kabila devait être déposé par un coup d'État militaire ou que sais-je, je ne suis pas sûr que la communauté internationale montrait au créneau comme elle ne l'a pas fait pour l'Égypte. Et donc je pense qu'il faut toujours être prudent entre avoir un pouvoir civil fort et puis un pouvoir militaire quand même évidemment efficace, compétent et qui est surtout capable de pouvoir défendre le territoire, puisque c'est en fait c'est ça, ce à quoi on demande à une armée, ben, c'est de pouvoir défendre le territoire du pays dont elle est issue. Et donc il faut faire attention à dire, oui, c'est la guerre qui va faire en sorte que, et l'option militaire qui va faire que maintenant on va les écraser et c'est fini. Moi je pense qu'il faut maintenant attendre encore quelques semaines.
Oui.
On est en temps réel par rapport à Kampala.
Mais parce que la maire a parlé, dit le président, dans ses propos, le président Barack Obama, voulait interpeller son homologue congolais sur la question de la bonne gouvernance.
Oui, vous savez, ça c'est un vieux débat sur lequel évidemment n'importe quel État, qu'il soit occidental ou qu'il soit émergent ou qu'il soit en développement ou qu'il soit en sortie de crise, comme l'est aujourd'hui la RDC, un État fragile, après ce qu'elle a vécu sur les 10 dernières années. Bien entendu qu'on peut mettre, mais je pense que la bonne gouvernance vaut exactement pour la France.
Enfin, tout à fait.
Vous voyez que les comptes de campagne quand même du président Sarkozy ont été annulés par la Cour constitutionnelle. Donc la bonne gouvernance, oui, partout, évidemment, on a intérêt à ce qu'elle soit un peu plus présente et un peu plus efficace. Mais bon, en même temps, moi je pense qu'on voit quand même des choses qui évoluent depuis 2006.
Voilà, comment expliquer que, en l'espace des 6 mois, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, on a quand même enregistré pas mal de navettes diplomatiques, au niveau de la RDC surtout. Nous avons, on peut citer les cas de Mary Robinson, Latsous, qui est passé par ici, Ban Ki-moon tout récemment,
tout à fait.
Et puis Barack Obama qui n'est pas arrivé en RDC, mais au moins les trois
autres, ils ont parlé
tout ça. Alors, mais j'imagine que on a atteint quand même une vitesse de croisière, en croire juste ces navettes diplomatiques. Mais d'une part, on se rend compte également, on est loin vraiment d'atteindre les résultats. Finalement, ce paradoxe commence à inquiéter plus d'un.
Alors, je pense qu'on avance quand même. Et je le disais à l'instant, le processus de Kampala, on est en temps réel actuellement, puisque c'est aujourd'hui ou demain qu'il va se clôturer. Et donc, avec ce processus, on aura au moins la fin du dialogue politique avec le fameux M23. Vous savez qu'il y a une initiative qui a été prise par la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, qui va aboutir d'ici 2 semaines à la mise en place de certificats régionaux pour les minerais qui sont extraits des sols de la CIRGL, des pays de la CIRGL. C'est un événement qui va peut-être un peu passer inaperçu, puisque c'est prévu pour aux alentours du 22-23 juillet, mais c'est un élément hyper important, puisque à partir du moment où on va pouvoir certifier tous les minerais qui sortent et qui vont après sur le marché mondial, et dont on va pouvoir définir qu'ils ne sont pas issus de creuseurs clandestins, de groupes armés irréguliers, il va y avoir un changement de comportement de tous ceux qui ont intérêt à ce qu'actuellement...
Oui, malgré ça, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On connaît ce qu'a produit les processus de Kimberley avec, toujours dans ce qui concerne la région. Est-ce que nous ne risquons pas de tourner en rond avec cette histoire des certifications?
Je ne crois pas. Je pense qu'il y a maintenant une véritable volonté des États train de rentrer dans une dynamique un peu plus, je ne dirais pas fair play, hein, il faut pas exagérer, mais dans une dynamique un peu plus transparente en tout cas. Et je pense que il va y avoir quand même, il va y avoir certains États qui n'apprécieront pas, hein, même s'ils vont devoir signer ces fameux accords sur la certification régionale. Et certains États qui ne seront peut-être pas très très contents qu'on mette un peu de transparence dans ce commerce, qui est un commerce évidemment qui est une des sources évidemment des mouvements rebelles, des mouvements armés irréguliers et de la situation chaotique actuellement à l'est de la République.
Voilà, donc Dominique, si vous permettez, on va encore rejoindre quelques auditeurs. Il y a Crispin qui est à Kisangani, Dadi est à Kinshasa. Crispin, vous êtes avec nous, bonjour. Crispin, vous êtes avec nous? Voilà, nous prenons plutôt Dadi qui est à Kinshasa. Dadi, bonjour.
Oui, bonjour, Julien.
Voilà, Dadi, votre point de vue.
Oui, mon point de vue est le suivant. Avant d'abord d'analyser les retombées de cette déclaration, si nous prenons par exemple cette déclaration faite par le président Obama, nous pensons que le président a réitéré que les opinions émises par l'ensemble de la population congolaise et la communauté internationale. Alors, sur le plan international, Obama a appelé à ce que les pays frontaliers ne puissent plus financer les rebelles qui agressent la République démocratique du Congo. Mais est-ce que le Rwanda, l'Ouganda, aujourd'hui sont-ils prêts à accepter de ne pas soutenir ces rebelles quand ils savent que non, en soutenant ces rebelles, ça renforce en quelque sorte leur économie par les viols et puis l'extraction des minéraux de manière illicite. Et puis sur le plan international, il dit au président de la République de renforcer ou bien de changer notre système sécuritaire, renforcer notre armée. Mais le président de la République est là depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et qui n'a pas dit au président de ne pas renforcer notre système de sécurité, de ne pas renforcer notre armée, de ne pas envoyer les filles et fils congolais d'aller dans des académies extérieures pour pouvoir être bien formés? Qui n'a pas dit au président? Et nous voyons que le président n'a jamais été prêt à renforcer notre armée, à changer notre système sécuritaire. Voilà, et puis moi je dis, si jamais le président Obama était honnête avec les Congolais, il allait dire ce que le président tanzanien a dit, que non, voilà, si vous, les pays frontaliers, vous ne cessez pas de soutenir les rebelles, moi j'enverrai soit les marines américains combattre aux côtés des Congolais pour bouter l'ennemi hors territoire national. Et encore appeler le Rwanda, l'Ouganda, d'un côté ou de l'autre,
aussi avec
de négocier avec les génocidaires ou les rebelles. Voilà un peu.
Voilà, donc votre souci, c'est que, pour un peu donner du crédit au propos du président des États-Unis, vous auriez souhaité, vous, personnellement, que ces derniers puissent rejoindre dans ce propos, les propos tenus il y a quelque temps, Jakaya Kikwete, qui disait...
Appelez solennellement que non, monsieur, ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que... les génocidaires que le Rwanda les considère. Même les enfants, si vous calculez bien, il y a même de ces garçons-là qui avaient 2 ans. Mais aujourd'hui, peut-être ils ont atteint 18 ans ou 22 ans. Le Rwanda, jusqu'à aujourd'hui, continue à les considérer comme étant des génocidaires. Même les enfants. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2 ans, ces jeunes-là étaient déjà des génocidaires.
Merci beaucoup, Dadi, d'avoir contribué dans cette émission. Nous prenons Patrick qui est à Butembo. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour, Radio Kapi, Izir Longombo. Bonjour à tous les auditeurs et à notre professeur Dominique.
Voilà, vous avez la parole, Patrick.
Ok, merci beaucoup. Vous voyez, depuis Bill Clinton à monsieur le président Barack Obama, a passé par George Bush Jr., je trouve que vraiment... L'histoire des États-Unis d'Amérique en relation avec l'histoire de la République démocratique du Congo fait déjà une honte terrible. Et l'Amérique regrettera d'ailleurs cette honte. On regrettera ce voyage, le voyage du président actuel Barack Obama en Afrique et sans arriver à la République démocratique du Congo, les poumons économiques. Donc si aujourd'hui le monde est en train de respirer, c'est grâce à la République démocratique du Congo. On a parlé de la forêt, on parle de tout. Bon, alors, l'insécurité qui est à l'Est, il n'arrive pas au Congo. Il passe au Sénégal, il va en Afrique du Sud, ou à Tanzanie. Bon, attention, à Tanzanie, c'est pour dire à Jaka Kikwete de voir très bien, de regarder bien l'affaire d'envoyer les soldats à l'Est du Congo pour maintenir la paix. Vous savez pourquoi aujourd'hui, à l'Est, la délégation d'intervention rapide ne veut pas intervenir?
Voilà, dommage, Patrick évoluait avec ses réflexions. On a des petits soucis là au niveau de sa ligne téléphonique. Ben voilà, Patrick pourrait peut-être revenir à la fin, si jamais la réalisation pourrait nous aider à récupérer Patrick. Alors, on prend Olivier qui est à Kikwete. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs.
Olivier, vous avez la parole.
Oui, merci. Je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui l'ont dit. La solution pour un Congolais ne viendra jamais de l'extérieur, ni des États-Unis, ni de la Russie, ni d'ailleurs. Et je pense que tous les grands observateurs internationaux l'ont déjà dit, et ils l'ont dit ouvertement. Il y a des ministres qui sont arrivés sur le Parlement, résolvez, apprenez à résoudre vos problèmes vous-même. Ça a été dit officiellement. Mais nous sommes désolés et déçus de voir que, jusqu'aujourd'hui, nous attendons encore que Barack Obama vienne faire quelque chose. La déclaration de Barack Obama, c'est vrai qu'elle est politique, elle est diplomatique, et elle ne va pas changer quoi que ce soit à l'Est. Parce que, comme notre ami de Goma et les autres l'ont dit, les relations entre les États sont des relations d'affaires. Nous le savons. Alors, je prends un petit exemple pour montrer que la solution du Congo est d'avenir des Congolais. Et ce sont encore les Nations Unies qui nous le montrent. Il y a quelques temps, des experts des Nations Unies ont montré que le soutien au M23 vient de Kinshasa. Ils ont pointé un général, Tango Fort, et quelques temps après, on l'a mis dehors. Mais ça n'a pas suffi. Le mouvement continue, et aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve Tango Fort, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, ça, ce n'est qu'un exemple. Et d'autres exemples ont été donnés pour montrer que la situation à l'Est dépend de Kinshasa. Les commanditaires sont à Kinshasa. Ça a été dit. Nous avons, il y a quelques temps, nous avons eu des problèmes avec le M23 à Bounagana. On a dit on ferme la frontière. Mais nous connaissons la suite. Ça continue. Il y a eu l'histoire de Jabo Kotaganda. On a dit non, cette fois-ci, c'est fini, il est parti. Tout le monde est impliqué. Il est parti à la Cour internationale. Mais nous savons, nous connaissons la suite tous. Donc je pense qu'il y a un problème très sérieux. Et ce problème réside d'abord au niveau de la conscience congolaise. Nous avons beaucoup de complicité au niveau de la RDC. C'est là qu'on doit trouver les problèmes, on doit trouver les solutions. Le secrétaire général des Nations Unies l'a dit il y a quelques temps. On lui posait la question au sujet de M23 et du Congolais. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est dans Jeune Afrique, au mois de février. Il dit, le gouvernement congolais devrait améliorer sa gouvernance. Il l'a dit. C'est clair. Il devrait aussi réformer ses forces armées. Alors, M. Fier, moi je peux lui poser une question. Ce n'est pas que je suis pessimiste, je vais vous poser une question. Réformer l'armée, l'idée ne doit pas venir de l'extérieur. Quand nous voyons comment se comporte notre armée et comment on l'a vraiment paralysée, et ça jusqu'à ce point, pourquoi le gouvernement ne peut pas décider lui-même avant que l'extérieur me dise quelque chose? J'ai toujours posé la question, une autre question, c'est au sujet du travail du ministre de la Défense. Vous allez constater que depuis que nous sommes en crise, c'est le ministre le plus absent. Alors, ça, c'est le gouvernement qui l'a décidé. Il ne faudrait pas que ça vienne de l'extérieur. Matata Tongo est allé à Washington le mois de février. Et il a obtenu la promesse de l'ONU et de la Banque mondiale d'être aidés dans les efforts de redressement. Et on a dit efforts de redressement et particulièrement la sécurité et le développement. Mais on va attendre combien d'années? Le gouvernement n'est plus
oui,
rien.
Donc, oui, Olivier, vous avez dit le ministre de la Défense n'est pas, en fait, le ministère n'est pas présent depuis que la RDC connaît cette situation, c'est ça?
Oui, il n'est pas présent, enfin, en tout cas, on ne voit pas, il devrait être actif, mais on ne voit pas, on ne sent pas. L'intérieur, c'est la même chose. Le ministre de l'Intérieur, c'est de là, je pense qu'on devrait voir ce qu'ils font exactement. Ça doit se sentir.
Bon, je ne sais pas, parce que le problème, ce n'est pas seulement le problème du ministère. C'est un problème des Congolais, de tous les Congolais. Et je crois que c'est au niveau, comme l'avons dit, dans tous les secteurs, il y a la politique, il y a l'armée, et puis il y a la diplomatie. Donc je crois, nous ne devons pas restreindre ces problèmes-là. On ne doit pas les limiter. Hein. On ne doit pas, rester dans sur le plan interne, parce qu'il y a plusieurs paramètres à voir dans tous ces problèmes. C'est un problème complexe.
Il y a des responsables de chaque secteur. Et nous, population, ne peut pas agir de nous-mêmes. C'est-à-dire que pour qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on sente qu'il y a une orientation de nous. C'est ça le problème. La gestion, c'est ça.
Merci beaucoup, Olivier. Olivier, d'avoir appelé de Kikwit. Nous prenons Crispin qui est à Kisangani. Bonjour, Crispin.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Crispin.
Ok, merci. Je crois comme nécessaire et que attendre beaucoup d'Obama, les États-Unis, je ne suis pas seulement tellement de cet avis. Parce que je n'aimerais pas que nous mettions encore, en fait, c'est qu'on a toujours crié les slogans, soi-disant souveraineté, indépendance, encore en cause. C'est comme cela que, selon moi, même cette histoire des forces nettes, après tout, oui, bien sûr, pour l'instant, comme nous n'avons pas encore une armée, bon, c'est comme ça que peut-être les uns ou les autres peuvent s'en réjouir. Mais, de part, notre souveraineté, indépendance, c'est une honte. Et ça fait combien d'années qu'on devra parler d'avoir une armée forte? C'est beaucoup d'années maintenant.
Oui, Christophe,
c'est sûr, pas une armée. Et ensuite, pour que ceux qui disent, soi-disant, que non, voilà, Obama, quand il dit ça, et qu'au même moment, c'est lui encore qui est derrière le Rwanda, l'Ouganda, mais moi, je ne vais pas. C'est l'air en vouloir ou vouloir ou le bander, ça se rendait.
Voilà, c'est leur point de vue,
parce
hein.
C'est leur diplomatie, leur façon
de gérer
l'extérieur.
Oui, voilà.
Nous aussi, on devait aussi faire autant. À l'époque de Mobutu, n'est-ce pas, c'était les Alliés qui étaient le centre de tout. Et qui
merci beaucoup.
Avec les États-Unis.
Merci beaucoup, Crispin. Nous revenons à vous, Dominique. Si on peut ramasser d'abord rapidement toutes ces réactions, avant d'accorder encore la parole à Martin et à Tiza.
Ben écoutez, moi je crois qu'il y a une chose tout à fait juste qui a été dite par Olivier, c'est évidemment de Kikwit, c'est évidemment toute la question de l'environnement. Et c'est vrai que si le président Obama, qui vient de lancer un grand plan de lutte contre les émissions de CO2 aux États-Unis, où on sait que c'est un des pays qui produit le plus de CO2 au monde, s'il avait vraiment voulu lancer ce partenariat, ou en tout cas vouloir renforcer ce partenariat avec l'Afrique subsaharienne, et notamment avec la République démocratique du Congo, ben, c'était au moins une des questions sur lesquelles il aurait pu avancer, il aurait pu même aller un peu plus loin. L'autre chose tout à fait juste, évidemment, que disait aussi votre auditeur de Butembo, c'est que...
Patrick.
C'est évidemment pourquoi est-ce que les États-Unis, en effet, n'alignent pas une compagnie de Marines qui pourrait, à côté de la force d'intervention rapide, à côté des forces armées de la République démocratique du Congo, ben, en terminer une bonne fois pour toutes avec ses groupes rebelles. Et donc c'est vrai que pour le moment, c'est un discours, comme le disaient très bien vos auditeurs, qui est politique, qui est diplomatique, qui n'est pas militaire. Maintenant, je pense aussi qu'il est toujours dangereux de mettre l'armée américaine dans des opérations militaires en dehors de son pays, parce qu'on a vu quand même qu'en Irak, en Afghanistan, ça n'a pas donné des résultats tout à fait probants. Mais bon, il pourrait au moins poser un geste en disant, ben voilà,
il pourrait quand même témoigner son implication.
Voilà, son implication et sa solidarité, soit par le financement, soit par la mise à disposition d'officiers supérieurs, que sais-je, pour démontrer qu'il a vraiment envie que les groupes rebelles cessent leurs exactions à l'est de la RDC. Pour le moment, on en est encore évidemment qu'à des discours, et je crois que ce sera sans doute une des conclusions, ou en tout cas un des fils rouges de cette émission, c'est que...
On accorde d'abord la parole à Martin, à Martin qui est à Kikwit et Tisa qui est à Goma. Martin, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur les journalistes, bonjour l'invité.
Voilà, merci Martin, bonjour. Bonne arrivée sur les ondes des Radio Capi. Vous avez la parole.
Oui, monsieur les journalistes, je vais vous dire un problème. Nous, les Congolais, avec les Rwandais, nous n'avions pas de problème. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui nous met dans cet antagonisme. Vous dites aujourd'hui que M. Obama a donné un discours, il a fait un discours. Est-ce que ce discours, c'est un discours paradoxalement, un discours qui a l'impact sur, ou bien un discours qui est politique? Si c'est un discours conscient, au moins, c'est parce que ce sont les États-Unis qui sont à la base de tous ces désordres qui se passent à l'Est. Vous voyez? Alors, moi, je pense que si les politiciens sont conscients, ils doivent faire attention avec les discours des Américains, avec les discours de n'importe qui. Le problème, c'est quoi? C'est vraiment la prise de conscience de nos autorités et puis la prise de conscience des peuples rwandais. Vous savez, aujourd'hui, messieurs les journalistes, je vous dis, nous, peuples congolais, nous sommes très, très, très inquiets des comportements de nos frères rwandais. Les Rwandais se sont comportés vraiment à... Ils n'ont pas l'amour panafricain. C'est ce que nous regrettons totalement. Normalement, les belligérants, donc, les grandes puissances devraient intervenir. Si aujourd'hui, Obama est venu au Congo, pardon, est venu en Tanzanie, en Afrique, il devrait passer par le Congo, les Rwandais, pour mettre la paix. Ce sont eux qui sont à la base. Mais aujourd'hui, ils passent des discours qui sont superflus, les discours qui n'ont pas d'impact, les discours qui font encore mal aux yeux des peuples congolais.
Oui, mais merci. Oui,
c'est vraiment difficile, vraiment difficile. Je vous demande si c'est possible que nos frères rwandais prennent conscience et nos autorités aussi qu'ils en ont hauteur.
Voilà, donc vous en appelez à la solidarité panafricaine, comme vous l'avez dit vous-même. Merci beaucoup, Martin, d'avoir appelé des Kikuit. Tiza, vous êtes à Goma. Bonjour.
Oui, bonjour, JR. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour aux auditeurs de Radio Capi. Bien, je suis très, très marqué par le discours de monsieur Obama. Cependant, ce discours n'aura pas d'impact. Je pense que, à mon avis, il a dû se rendre compte, il est venu se rendre compte du travail qu'il a donné au président Kagame et au président Museveni. Et après évaluation, il s'est rendu compte que vraiment, il est buté à un sérieux problème. Vous voyez, lorsque ils interviennent au Rwanda à hauteur de 5 milliards de dollars, ils leur donnent ce travail-là de la balkanisation du Congo. Et chaque fois, même si nous avons une armée qui n'est pas encore totalement organisée, mais il se bute toujours à un problème. La population congolaise, à l'unanimité, n'est pas prête à accueillir la balkanisation de notre pays. Non. Nous disons non. C'est pour ça qu'il doit se rendre compte. En faisant son voyage du Sénégal à l'Afrique du Sud, et il se rend maintenant en Tanzanie, il a dû faire le tour. Et il se rendra compte que le Congo constitue vraiment un poumon économique de l'Afrique. Si vraiment Obama peut revenir à la raison, il peut vraiment financer la modernisation de notre armée et il se rendra compte qu'il sera plus facile pour lui, pour les autres, d'intervenir au Congo sans pour autant verser du sang au Congo. Ici au Congo, nous en avons marre de verser du sang qu'ils sont en train de verser, surtout ici à l'Est. Venez vous rendre compte, dans les hôpitaux, les femmes violées, les enfants orphelins, beaucoup de choses.
Voilà, donc vous souhaitez quand même qu'il y ait vraiment la prise de conscience des uns et des autres. Merci beaucoup, Tiza, d'avoir appelé. Nous revenons à vous, Dominique Vals, pour la conclusion. Professeur, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette tournée africaine, donc le deuxième déplacement du président Barack Obama, disons, en ce qui concerne la situation de la RDC?
Écoutez, moi, je crois qu'on peut retenir trois choses. La première, c'est que c'était plutôt un discours qui n'est pas accompagné d'actes concrets pour le moment. ou en tout cas qui n'a pas été entouré d'actes concrets lors de son séjour sur le continent africain. On va voir maintenant qu'il est rentré chez lui, ce que ça va donner dans les semaines qui viennent. Mais je pense qu'on est vraiment au niveau du discours et sans plus. Deux, je pense que le peuple congolais, et votre dernier invité l'a bien dit, et ça c'est quelque chose sur lequel il faudra absolument que toute la communauté internationale le comprenne et en soit consciente, le peuple congolais ne veut pas de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais est un peuple nationaliste qui ne veut absolument pas qu'il y ait une division du territoire de la République démocratique du Congo. Et ça, je peux vous dire que c'est peut-être une des forces encore plus grandes que si on avait une armée congolaise aguerrie et qui était véritablement capable de défendre les frontières du pays. Et trois, même si là je diverge un peu avec vos auditeurs, je ne pense pas que la solution est intra-congolaise. Je pense que malheureusement la solution elle est justement internationale et que aujourd'hui dire que c'est parce qu'il y aurait de la bonne gouvernance qu'on aurait une grande armée aguerrie, formée, forte, équipée qui pourrait défendre les frontières de la République démocratique du Congo, je ne pense pas que avec tous ces facteurs là on aurait la paix qui soit revenue, parce que il faut qu'on ait vu l'implication des autres États, qu'ils soient voisins ou qu'ils soient plus lointains comme les États-Unis, on l'a dit tout à l'heure, il va falloir qu'il y ait un consensus international qui dépasse les frontières de la République démocratique du Congo afin d'avoir une paix durable dans la région.
Dominique Welt, vous êtes professeur et analyste politique. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir
avec
fait
plaisir.
Le déplacement et lors de votre séjour. Nous vous souhaitons un bon séjour à l'RDC et particulièrement à Kinshasa.
Oui.
Vous avez sûrement visité déjà les villes, hein,
oui,
et
oui.
Non, la ville, et puis Matongé, vous y avez été.
Bah, j'espère que vous allez m'emmener un petit 4.
Hein. Voilà, merci beaucoup, Dominique. Nous disons merci également à tous les auditeurs qui ont suivi cette émission religieusement. Hein. Nous prenons rendez-vous avec vous demain, mercredi.
Allô? 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 Mais qui ne répond pas?
Voilà, donc demain, donc, comme je l'ai dit, on prend rendez-vous avec vous. Les processus de la réforme de l'armée et des services de sécurité se poursuit. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, vient de publier une ordonnance nommant des officiers généraux et supérieurs des FRDC et de la police. Le même décret met en retraite et révoque certains policiers et militaires. Quel pourrait être pour vous l'impact de cette décision dans les processus de la réforme? C'est le sujet de demain. Prenez déjà rendez-vous avec nous en nous déposant vos commentaires sur notre page Facebook. Vous pouvez également, si vous avez la possibilité, de nous appeler en direct. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.